La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC.
Here is the commissioner of the NBA, Adam Silver.
With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama.
Basket time.
C'est que la draft, c'est qu'un début, c'est pas du tout un aboutissement.
The number one pick in the 2024 NBA draft goes to the Atlanta Hawks.
Kylian Vérov.
Salut tout le monde. Dans ce Basket Time, on continue de vous présenter des pépites. Le 26 juin prochain, elles devraient être appelées dans les premières positions par Adam Silver lors de la prochaine Draft NBA. Et pour en parler avec moi, vous en avez l'habitude désormais, Emmanuel Lenevé du Média Envergure. Salut Manu.
Salut Kylian.
Après 2 épisodes sur Nikola Topić et Matas Boudzelis, retour en France. On est gâtés cette saison Manu, on a déjà parlé de Zachary Risaché et d'Alexandre Sarr. Mais il y en a un autre qui pointe vraiment le bout de son nez dans les hauteurs des derniers mock drafts. Et cette saison, il a fait le bonheur du Cholet Basket.
Salon shows that beautiful touch that he's got. Salon will be 2 in a row, yes it will. If you're old enough... You're good enough. For a replay, Salon, his 3rd 3, yes it is.
Est-ce qu'il va l'attaquer? Oh, il va le prendre à 3 points. Tijan Salon.
Petit flotteur là pour un grand. Et Salon qui va intercepter, il va finir.
Tijan Salon, piste de décollage.
Salon, look out. There he is, driving in. His game is tantalizingly good.
Tijan Salin, annoncé au milieu du second tour de draft en septembre dernier, il semble quand même qu'il puisse être bien installé dans le top 10 désormais, mais on y reviendra plus tard sur ça. Manu, est-ce que tu peux commencer par nous décrire le profil de Tijan Salin, son poste, son âge, sa taille?
Tijan, c'est d'abord un joueur qui est physiquement impressionnant, costaud, épais, très musclé. C'est un 2005, il aura 19 ans en août, donc assez jeune pour un joueur professionnel. Il fait 2m6, une envergure annoncée à 2m16, et c'est un joueur qui est capable d'évoluer sur les postes 3 et 4.
On l'a dit, joueur clé du Cholet Basket cette saison, mais avant ça, il a notamment fait un passage éclair à l'INSEP. Est-ce que tu peux nous retracer son parcours, Manu?
Tijan, ouais, il commence en région parisienne, il fait plusieurs années à Charenton, dont sont extraits plusieurs joueurs potentiellement draftables cette année également. Puis il passe par l'INSEP, il fait 1 an, une saison avant d'intégrer le centre de formation du Cholet Basket, et là-bas il évolue sur toutes les catégories jusqu'à aujourd'hui l'équipe première.
On va faire un petit point sur son palmarès, notamment avec le centre de formation de Cholet. Vainqueur du Trophée du Futur en 2022 et 2023, MVP du tournoi en 2023, champion de France Espoir en 2023 toujours, élu dans le 5 majeur de l'Adidas Next Generation Tournament à Patras en février 2023 avec 20,5 points, 7,5 rebonds et 2,3 interceptions de moyenne. C'est colossal. Et puis cette saison avec les pros, c'est la confirmation. Manu, est-ce que tu t'attendais à le voir performer à ce point après ces années dans le centre de formation de Cholet?
Performer sur sa première saison, clairement non. Mais surtout, ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant de minutes en fait, déjà dès sa première saison. Mais Laurent Villa lui donne énormément de temps de jeu. Il le responsabilise énormément. Notamment quand il y a des scouts NBA qui viennent dans la salle, c'est assez drôle d'ailleurs. Et il débute les rencontres, il les termine, il est intéressant, que ce soit dans des matchs serrés ou pas, et voilà, il a une présence et tout au long de la saison, il a répondu à ce rôle qui lui était confié.
Bon, une saison qui s'est achevée en play-off de Betclic Elite contre le Paris Basketball, on y a cru pour Cholet, mais finalement non. Manu, est-ce que tu peux nous donner les stats de Tijan Salin cette saison, maintenant qu'elle est achevée avec le Cholet Basket?
Donc dans le championnat de France, c'est un peu plus de 30 matchs joués, un peu plus de 20 titulaires, donc c'est assez intéressant. Ouais. 9 points de moyenne, 4 rebonds, une passe, une interception, et en FIBA Champions League, où il évolue aussi avec le Cholet Basket, on est sur des chiffres assez similaires, 10 points, 4 rebonds, une passe et également une interception. La différence, elle se trouve surtout sur les pourcentages, où en Betclic Elite, il est à 37% au tir, dont 33% à 3 points et 76% au lancer franc. Quand en Europe, il était à 43% au total, 30% à 3 points et surtout 89% au lancer franc.
Après, quand on regarde les stats un petit peu détaillées match par match, on a quand même l'impression d'une certaine irrégularité, pardon, notamment au niveau du scoring. On l'a vu faire des pointes à 24 points contre des clubs contre Anvers ou Darussa Faka en Basketball Champions League. Et puis le match d'après, redescendre à 2, 5, 4 points. Irrégulier un petit peu Tidjan Salin, ou alors ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande, Manu?
Irrégulier notamment par son tir, c'est l'un des aspects principaux de son jeu, c'est le tir extérieur. Et on l'a vu toute la saison, il peut très bien faire du 4 sur 7. Comme le match d'après, du 1 sur 5. Donc, c'est les montagnes russes, un petit peu. Ce qui est normal à cet âge-là, il se construit encore en tant que joueur. Donc, faut y passer par là. Et tous les prospects passent par là. Il n'y en a aucun qui domine sur tous les plans, sur tous les matchs, à part des joueurs exceptionnels, comme apparemment Victor Wembanyama est pas trop mauvais à ce niveau-là. Ou Luka Doncic, pareil, ou qui t'y surdominait, mais ce sont deux ovnis, en fait. C'est des joueurs qu'on voit bien tous sûr. Les 30 ans.
Oui, et puis tu l'as dit, ils ne s'attendaient pas forcément à être autant responsabilisés dans une première saison chez les pros à Cholet. Il a quand même réussi, entre guillemets, ce pari-là à Cholet. En tout cas, on l'a senti très attaché à son club. Il a donné de la voix pour essayer de battre le Paris Basketball en play-off. Il s'est montré aussi très touché après l'élimination. Est-ce que tu peux nous donner un mot sur son style de jeu maintenant? Comment est-ce que tu décrirais le style de jeu de Tidjan Salin, justement?
C'est un ailier fort qui est assez compétitif, qui aime apporter des points loin du cercle. Et il est aussi très intéressant dans les coupes au panier. Le plus intéressant, c'est d'être en face à un joueur qui est capable de répondre à plusieurs rôles en attaque. Il sait s'adapter. Donc c'est un super point positif.
Quels sont ses points forts, selon toi, à Tidjan Salin?
Aujourd'hui, pour moi, son ticket d'entrée en NBA, c'est surtout la défense. On est face à un joueur qui est capable de défendre sur plusieurs positions, qui peut défendre le pick and roll. Il a tous les outils pour devenir un très 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 bon défenseur. Donc là, c'est vraiment moi le point sur lequel j'appuierai.
Et à l'inverse, quels sont les axes de progression qu'il a? Où est-ce qu'il faudrait qu'il s'améliore pour encore passer un cap, selon toi?
Notamment le tir. Donc on l'a vu cette saison, il est très très porté sur le catch and shoot. Donc la chose à améliorer, c'est vraiment plus la création de son tir. Voilà, apprendre à créer l'espace avec le défenseur pour justement se procurer un tir ouvert, entre guillemets, mais voilà, qui assez d'espace pour pas trop être gêné. Et aussi l'attaque du panier, c'est quelque chose qu'on a très peu vu avec Cholet Basket, que ce soit en proie ou avec les espoirs. Il a un rôle assez limité, mais je me suis replongé dans son championnat d'Europe U18 de l'année dernière à Niš en Serbie, où on voit un joueur qui est totalement différent, qui attaque justement les close-out, qui attaque le panier de façon un peu plus constante. Et c'est super intéressant de voir justement qui peut le faire.
Qu'est-ce qui fait qu'il a changé du coup ce style de jeu, selon toi? C'est de l'adaptation au monde professionnel ou c'est autre chose?
Je pense que c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de faire ça et de pas trop déborder du cadre. Pour moi, c'est plus ça. En espoir, il était un peu plus différent. Le rôle était assez similaire, mais il y avait des choses qui diffèrent. Mais en pro, voilà, il est vraiment dans son cadre. Tu fais ça et entre guillemets, basta. Il a fait ça toute la saison, ça lui a servi, mais je trouve que ça lui a aussi desservi parce qu'il n'a pas montré toutes les capacités de son jeu, finalement.
Qu'est-ce qu'il aurait pu montrer de plus, selon toi?
C'est ces deux points-là, un peu ce qu'on a vu sur le match 1 contre le Paris Basket, où on le voit très agressif au panier, avec et sans ballon. On le voit créer un petit peu, notamment sur le match 3, où il drive, il fait un step back en tête de raquette et il score. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est des fulgurances en fait qu'on a pu voir sur la saison, mais encore très très limitées du fait du rôle qui lui est donné. C'est un jeune joueur, il ne va pas non plus être l'option numéro 1 à 18 ans d'une équipe de Betclic Elite.
Oui, parce que le premier match contre Paris, c'était 19 points, 8 rebonds, 61% au tir contre à peu près 35-37% de moyenne. On l'a vu vraiment au sommet de son art, entre guillemets, à cet âge-là contre le Paris Basketball sur ce premier match. Par contre, est-ce qu'on peut parler de son irrégularité, encore une fois, au lancer franc? Je vois des 0 sur 2, 0 sur 3, 1 sur 5, 20%.
Déjà, il y va peu, il a un peu moins de 2 tirs. Ou un peu plus de 2 tirs seulement, donc un seul voyage sur la ligne des lancers francs par match, c'est très peu. Et que ce soit en espoir ou là en pro, les statistiques n'ont jamais été exceptionnelles. Alors que voilà, moi j'ai pu le voir sur des warm-up avant match, il travaille beaucoup son tir, il est très porté sur son tir, que ce soit de près ou de loin, donc c'est assez étonnant de voir que finalement son tir il n'est pas encore fixé, il lui manque quelques éléments, mais je pense que ça va venir avec le temps.
Oui, on l'a dit, il est encore jeune. Tu le comparerais à quel joueur NBA, ce Tijan Salin?
Dans le meilleur des mondes, à terme, je pense qu'il peut devenir quelque chose proche d'un Lauri Markkanen. Il y a d'autres situations, mais c'est des joueurs qui sont actuellement un peu plus petits. C'est Jalen Williams d'OKC ou Tobias Harris des Sixers. Voilà, des ailiers, en gros, des petits ailiers capables d'un peu tout faire. Ils sont un peu plus manieurs de ballon que les Tijan, mais voilà, pour moi, il y a un monde où, en fait, Tijan explose complètement et on voit qu'en fait, il sait faire beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais, sans doute, en effet. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette formation scholtaise, elle brille encore avec Tijan Salin. Je pense que je ne prends pas trop de risques en le disant, mais l'Académie Gauthier, comme elle s'appelle, c'est sans doute l'un des meilleurs centres de formation de France. On a 122 joueurs devenus professionnels, 6 joueurs draftés, Séraphin, De Colo, Gobert, Aïs, Gélabal, Beaubois. Il y en a évidemment énormément d'autres. Pourtant, on a l'impression que Tijan Salin, il est quand même largement moins mis en lumière qu'un Rizaché, par exemple. Évidemment, je pense qu'on ressent la même chose, Manu, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Peut-être parce qu'il a été moins exposé dans sa carrière. Quand Zachary jouait les NGT avec l'ASVEL et les ETA avec l'équipe de France, Tijan, non. Il est participé à ses tournois. Son premier NGT, c'est en 2023, l'année dernière, à Patras, en Grèce. Et sa première sélection en équipe de France jeune, c'est également l'année dernière, en U18, au championnat d'Europe. Donc c'est un peu cette exposition-là qui lui manque, mais les scouts le connaissent. Très très bien. Très tôt dans la saison, ils se sont déplacés à Cholet pour en savoir un peu plus sur le joueur et sur le garçon. Donc il est connu, je suis pas inquiet là-dessus.
Oui, et puis si on se projette un peu, on voit quand même que la mock draft ESPN l'attend à la 8e place. Donc oui, on se doute bien qu'il est quand même assez connu et scouté aux États-Unis. Sans parler de la franchise qui pourrait le récupérer pour l'instant, parce qu'il y a quelques bruits qui courent. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 secondes sur ce chiffre? 8e, tu le vois aussi haut, Manu, tu comprends ce chiffre?
Moi, je le comprends, parce que c'est un joueur que j'estime beaucoup dans le potentiel. Quand je vous dis, je pense qu'à l'image d'un Bilal Koulibaly prochainement, Tijan va surprendre. Que ce soit aux États-Unis ou je l'espère tous les deux en équipe de France. C'est un joueur qui sait faire beaucoup plus de choses que ce qu'on l'a vu faire cette année avec Cholet Basket.
On va en parler, la loterie a eu lieu, les Spurs ont hérité des 4e et 8e choix de la draft 2024. Selon ESPN, il semble que Tijan Salin soit beaucoup plus proche d'un choix dans le top 10, que plusieurs équipes signalent que ce choix numéro 8 des Spurs, c'est un véritable point de chute potentiel pour Salin. Qu'est-ce que tu en penses, Manu? Est-ce que Salin, aux côtés de Wemby, ça t'excite? Est-ce que tu vois les Spurs aller chercher Tijan Salin?
Honnêtement, je ne sais pas. Pour son évolution dans le jeu, je ne suis pas certain que ce soit un très bon contexte pour lui. Même si les Spurs l'aiment bien et souhaitent le faire jouer dans un rôle similaire à ce qu'on a pu voir cette année, là ce serait intéressant parce que voilà, il va savoir s'adapter là-dedans, j'en suis sûr. Donc d'autant qu'il peut évoluer sur 2 postes, ailier fort. Donc voilà, et donc avec ou sans Victor à ses côtés, il pourra jouer.
Mais est-ce que c'est vraiment ce dont les Spurs ont besoin sur le papier, d'aller chercher un joueur comme Tijan Salin, selon toi, dans cette draft?
Les équipes, de toute façon, comme les Spurs, là, actuellement, dans cette partie de la draft, ont besoin de talent. Donc, moi, je suis partisan du drafté sur le talent et pas sur le fit. Donc, si aujourd'hui, si demain, ils pensent que Tijan en 8, c'est le meilleur talent disponible, ils prendront.
Bon, surtout qu'ils auront déjà eu le choix 4 avant, qu'ils auront fait déjà prendre un talent supplémentaire en 4e choix. Donc on peut s'attendre à ce qu'il puisse potentiellement choisir Tijan Salin. Tijan Salin en NBA, si tout se passe bien, quelle place il peut espérer selon toi? Tu l'as dit, s'il explose, ça peut devenir un joueur assez impressionnant sur le papier. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit potentiellement All-Star?
Pour moi, il y a un monde où oui, c'est un All-Star. Je suis assez sûr de mon fait là-dessus, ouais. En fait, peut-être que je le surcote un petit peu, mais je vois tellement de choses en fait chez lui. Le mindset est incroyable, c'est un gros gros travailleur, et il y a tout ce qu'on voit sur le terrain, même si c'est par flash. Moi, je pense que ce qu'on a vu dernièrement sur les playoffs contre Paris, c'est quelque chose qu'il fera régulièrement en NBA.
Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant sur le papier et aussi dans le jeu, donc on peut s'attendre peut-être, ou en tout cas on a envie que Tidjane Salin explose véritablement et qu'il se révèle vraiment à son prime en NBA. On va conclure cet épisode, Manu, comme d'habitude, avec ta boule de cristal. La loterie, on l'oublie, le potentiel 8e choix, on l'oublie. Selon toi, dans quelle franchise est-ce qu'il faudrait qu'il atterrisse pour justement atteindre ce potentiel maximum que tu attends chez Tidjane Salin en NBA?
Bah honnêtement, c'est très compliqué. Je sais pas trop où l'évoluer, parce que où le placer, parce que c'est un joueur qui, je pense, en fait, s'établira partout. Okay. Que ce soit moins bien ou voilà, je sais pas s'il ira au bout de son potentiel partout, mais je pense qu'il s'établira partout, il aura du temps de jeu où qu'il aille, en fait, il va savoir s'adapter. Après, si je dois choisir, je dirais peut-être Sacramento. Je pense que y a vraiment c'est devenu une très belle équipe avec une hiérarchie assez claire, avec l'option numéro 1 qui est De'Aaron Fox, mais à ses côtés, je pense que voilà, il y a une place pour que Tidjane se développe vraiment efficacement là-bas.
En tout cas, on va le suivre. C'est vrai que c'est l'un des joueurs très excitants de cette saison. On l'a vu dans le championnat de France, en Basketball Champions League également. Merci Manu pour ce focus sur Tidjane Salin. N'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes qui sont déjà sur les plateformes. Comme toujours, je vous mets toutes les infos du Média Envergure évidemment dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau portrait. Salut.
RMC Basket Time.